Ça fait déjà 25 ans. 25 ans que je travaille auprès de la profession comptable. 25 ans que mon premier client m'a dit...
Bon, vous savez, Franck, de toute façon, la compta va disparaître. Bon, allez, bon week-end.
Quelques années plus tard, je suis toujours là, et la compta aussi. En revanche, entre 1998 et 2023, beaucoup de choses ont changé. Et d'autres bouleversements se préparent. Il y a des défis comme la facture électronique, bien entendu. Mais aussi, et surtout, des opportunités, comme l'analyse de la donnée financière. Comment se préparer au mieux? Comment faire en sorte de ne pas rater le tournant? Je m'appelle Franck Lascombe, je suis directeur commercial associé de Bobby et véritable passionné de la profession comptable. Ces questions, je me les pose et l'objectif de cette série est de vous aider à y répondre. Bienvenue dans la saison 2 de Podmiel, le podcast de Bobby. Quand on vit le quotidien du cabinet, on sait qu'il est difficile de lever la tête. Et pour autant, les cabinets sont face à des enjeux comme la profession n'en a pas connu depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça qu'on souhaite vous offrir ce hors-série de 4 épisodes où je suis accompagné de 2 consultants reconnus par la profession qui vont vous partager leurs renseignements, leur expérience, leurs conseils et des anecdotes. En bref, vous donner les clés pour évoluer vers le cabinet de demain. Vous découvrirez comment définir votre stratégie et votre projet de cabinet. Pensez ou repensez votre offre de service, la marketer, la vendre, comment la produire et bien évidemment comment accompagner vos équipes dans ce changement de paradigme. En tout, 4 clés fondamentales. Aujourd'hui, clé numéro 2, pensez ou repensez votre offre de service, la marketer et la vendre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série consacrée à l'évolution du cabinet vers le cabinet du futur. Donc ce deuxième épisode va traiter de la définition de l'offre de service, comment la marketer et la vendre. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Philippe Barret et André-Philippe Vidal. Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Bonjour, je suis donc Philippe Barret, je suis expert comptable en région parisienne. Et j'ai la particularité d'avoir décidé il y a une quinzaine d'années d'arrêter les missions traditionnelles d'expertise comptable et de me consacrer plus à des missions d'accompagnement, de conseil et de formation, et notamment auprès des experts comptables.
Merci beaucoup. André-Philippe ?
Oui, bonjour. Donc André-Philippe Vidal. Donc j'ai créé Efficial en 96, donc il y a quelques temps. Et Efficial est dans l'accompagnement des cabinets d'expertise comptable de manière exclusive. Donc on accompagne les cabinets sur leurs 4 fonctions, la stratégie, le marketing, la production et l'organisation, avec pour objectif de les aider dans leur développement, de les aider à être plus rentables et de les aider à fidéliser leurs collaborateurs. Et depuis quelques temps, de les aider à passer sur les grandes évolutions du moment, que sont en ce moment le conseil et la digitalisation.
Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, on a les 2 personnes qui sont aptes à nous aider et à vous aider surtout sur cette dynamique-là de rentrer dans le cabinet de demain. Donc on a vu dans un premier épisode, n'hésitez pas à l'écouter si toutefois vous ne l'avez pas fait, consacré vraiment à la stratégie et le projet du cabinet. Donc là on passe, je dirais, à la deuxième étape du processus sur donc, la définition de l'offre de service, comment la marketer et la vendre. Donc Philippe, déjà en quelques mots, qu'appelle-t-on une offre cabinet ?
Alors en fait, effectivement, la question n'est pas si anodine que ça, parce qu'en fait, il y a peu de cabinets qui ont conscience qu'ils ont une offre. C'est-à-dire que l'offre du cabinet, c'est l'ensemble des missions que le cabinet propose à ses clients. Alors dit comme ça, ce n'est pas forcément beaucoup plus clair, mais l'idée c'est que quand vous allez chez un commerçant ou autre, si vous ne savez pas ce qu'il vous propose, il y a peu de chances que vous ayez l'idée de lui demander ce que vous ne savez pas qu'il produit. Je vais essayer d'être encore plus clair. C'est-à-dire que quand un client vient dans votre cabinet, il imagine, parce que c'est vrai que c'est ce que tout le monde imagine quand on est expert comptable, que vous faites de la compta. Donc ça, c'est plutôt cohérent et donc, a priori, pas besoin de survendre. Il sait que vous en faites. Maintenant, dès qu'on sort du périmètre de la compta, il n'est pas forcément au courant, il n'a pas forcément conscience que vous pouvez proposer autre chose. Je vais vous donner un exemple qu'on rencontre très souvent. Il y a des officines de conseils en gestion pour les TPE qui ne font pas la compta, qui sont assez implantées dans pas mal de régions en France et qui, en fait, viennent se greffer sur la mission de l'expert comptable en disant « Votre expert comptable, il fait les papiers ». D'accord ? Et en général, c'est encore moins valorisant que ça. Il fait la paperasse, il fait l'administratif, etc. Et moi, je vais créer de la valeur. Moi, je vais vous accompagner, je vais vous aider, etc. En fait, très souvent, j'ai des experts comptables qui me disent « mais c'est nul, parce que d'abord, les tableaux qu'ils font, ils sont nuls, et puis en plus, j'aurais parfaitement pu le faire. Je connais le dossier, j'ai les chiffres, j'étais le mieux placé pour... voilà. » Et donc, je lui dis « mais c'est quoi le bug ? Pourquoi est-ce que le client, à aucun moment, il s'est dit « mais j'ai un expert comptable, il a la compétence, il a les données, il a... Pourquoi je ne lui demande pas ?» Ben, tout simplement parce que ça n'est même pas venu à l'esprit du client d'imaginer que son expert comptable pouvait faire cette prestation. Et donc là, ce n'est pas la faute du client, soyons clairs, c'est clairement la faute de l'expert comptable. Parce que son offre, eh ben, il ne l'a pas clarifiée déjà, parce que je ne suis même pas sûr qu'en interne, chez lui, ce soit très clair, mais encore moins, il en a parlé à ses clients. Du coup, les clients, ne sachant pas qu'il fait ça, bah, ils sont allés voir ailleurs. Et je vais donner un deuxième exemple qui m'amuse aussi beaucoup. C'est un expert comptable que j'ai accompagné il n'y a pas longtemps. Et l'expert comptable dit, bon, on va se lancer dans des missions un peu administratives de full service et autres. Et il le propose à quelques clients. Et pour tester le truc, à un déjeuner, il dit, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse en fait toute votre facturation, la relance de vos clients, etc. L'expert comptable, il marchait sur des œufs parce qu'il se disait « Non, mais ça ne marchera jamais, il n'y a pas un mec qui va m'acheter ça. » Et le client l'a regardé en disant « Mais c'est une blague. » Alors l'expert comptable, là, il est décontenancé parce qu'il se dit « Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie ?» Et en fait, le client dit « Mais ça fait 30 ans que je cherche quelqu'un qui pourrait faire ça pour moi et je désespère et c'est ce dont je rêve. En fait, c'est pour moi le point noir de mon activité professionnelle. J'en rêve depuis des années. Vous ne pouvez pas imaginer comment vous me soulagez. » Donc voilà, l'offre du cabinet, c'est un peu quelque chose qui a été négligé parce qu'il n'y avait pas besoin jusqu'à maintenant, mais plus que jamais, il va falloir y aller.
André-Philippe, là-dessus, tu as quelque chose à ajouter ?
Si tu me dis quelques mots, on en a pour deux jours, surtout si je rebondis sur ce que vient de dire Philippe. Alors, il y a quelques années, il y a un président de l'ordre qui après a été mon client, qui a été interviewé dans un podcast et qui a dit une énorme bêtise. Il a dit, l'expert comptable...
Ça leur arrive.
Hein, ça leur arrive. Il a dit, l'expert comptable n'est pas là pour faire de la paperasserie. Donc, le président de l'ordre qui arrive à dire à la radio, que l'expert comptable n'est pas là pour faire de la paperasserie, alors que 95% de la valeur actuelle des experts comptables, c'est débarrasser les clients de tout ce qui les embête, c'est-à-dire la paperasserie. Et donc, je ne sais pas pourquoi, depuis des années, l'ordre des experts comptables passe son temps à dire « la compta n'a pas de valeur, la tenue n'a pas de valeur, la paperasserie n'a pas de valeur, il faut surtout faire du conseil ». Alors que personne ne fait de conseil quasiment et que 80% du chiffre d'affaires, c'est faire les déclarations et débarrasser les clients des papiers. Et à la place de faire les papiers, les clients, ils vivent. Ils vont voir leur femme, ils vont voir leur mari, ils vont voir leurs enfants. Ils vivent, ils font du business. C'est ça que ça sert, l'expert comptable. Moi, je lui confie mes papiers, à la place, je vis. Qu'est-ce que j'utilise là ? J'utilise un truc, mais qui est simplissime, qui est la notion de bénéfice. Dans les études d'experts comptables, tu parles de marketing, tu parles de commercial, et bien il n'y a même pas une heure sur la notion de bénéfice que n'importe quel commercial apprend pendant 3 jours. Et donc, du coup, l'institution passe son temps à dire « on n'est pas là pour faire de la paperasserie, on n'est pas là pour... l'émission n'a pas de valeur, la tenue n'a pas de valeur, mais si moi on ne m'avait pas débarrassé de la tenue comptable que je passais au début, une journée... par mois à faire, ben je n'aurais pas vu mes enfants. Ça n'a pas de valeur, ça. Donc, la définition d'une offre commence par la prise de conscience de la valeur de ce qu'on propose. Bon, il y a des experts comptables qui me disent on ne va quand même pas dire qu'on fait de la révision, parce que c'est nous qui avons la tenue. Et c'est quoi le bénéfice de la révision ? Ils ne savent pas. Pourtant, c'est simple, on l'apprend à l'école des commerciaux. Quand tu fais la révision, tu révises les comptes fournisseurs, parfois tu trouves un double paiement. Tu dis à ton client, ben vous avez payé deux fois un fournisseur, faites-le vous rembourser. À l'aube où il y a peut-être des sites en ligne qui font rapidement de la révision et où la révision n'est peut-être pas faite aussi, de façon précise que dans des cabinets normaux, peut-être que dans ces sites-là, je ne sais pas, peut-être. Peut-être que la révision est faite rapidement et que les doubles paiements ne sont pas vus. Je donne quelques exemples de bénéfices. Donc, pour marketer son offre, il faut commencer, une fois qu'on a décidé au niveau stratégique, ça c'est un autre sujet, une fois qu'on a décidé, il faut commencer par dire maintenant, quelle est la valeur de ce que je propose ? Pourquoi ? Parce que comme l'a dit Philippe, ben les clients, 9 fois sur 10, ils n'ont pas conscience, non seulement de ce qu'on fait, mais des bénéfices qu'ils peuvent obtenir. Demandez à un client la différence entre la révision d'un expert comptable et la révision de notre expert comptable. Comment voulez-vous qu'il le sache ? Tu comprends ce que je veux dire ?
Tout à fait,
donc avant qu'on aille un peu plus loin, il faut que, quel que soit ce qu'on propose, Hein, Philippe parlait d'un expert comptable qui disait « Est-ce qu'il va m'acheter ce truc-là » Mais il faut comprendre la valeur. Donc évidemment qu'il y a de la valeur partout. Et donc après, je relis ça au podcast de la semaine dernière sur la stratégie. D'accord ? Eh bien, il faut que la décision qui soit prise, il y ait une envie de tout le monde d'y aller et qu'elle ait de la valeur. Donc si je reprends ce que je disais à l'époque de ce podcast, aider mon client à réussir, ben, c'est une valeur. Réussir pour un client, ça peut avoir un critère financier, ça peut avoir un critère de reconnaissance, de plaisir. Donc ça, évidemment que c'est une valeur. Évidemment que c'est une valeur. Mais cette valeur-là, c'est le cœur de l'offre.
Tu as parfaitement raison, et c'est vrai que je voudrais compléter là-dessus, parce que tu faisais cette allusion, je dirais, sur la formation, entre guillemets, de base au niveau de la profession. Moi, ça ferait près de 23 ans que j'accompagne la profession comptable. Je vois une centaine de cabinets tous les ans depuis 23 ans. Et il y a deux éléments que j'aurais rajouté par rapport, qui me viennent comme ça à l'esprit en vous entendant. La première chose, c'est déjà, et c'est un élément, je dirais, qu'on apprend, je pense, dès la première année d'une école de commerce lambda, c'est que quoi qu'il en soit, on est tous capables de payer un prix pour un produit ou un service qu'on nous propose qu'en fonction de la valeur qu'on perçoit individuellement de ce produit ou de ce service. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, et c'est d'autant plus fondamental quand on parle, et d'ailleurs on en parlait dans un autre épisode, je crois, sur la facture électronique il y a quelques mois en arrière, mais où justement quand on regarde le processus d'un dossier de tenue, parce que c'est très processus, hein, avec approvisionnement, traitement, contrôle, restitution, archivage, voilà le processus, hein, il n'y a rien d'extraordinaire et c'est partout pareil. L'approvisionnement, c'est 30% du temps passé sur le dossier de tenue. Au bout de la chaîne, la restitution, c'est 5% du temps passé sur le dossier. Donc, comment peut-on imaginer la valeur qui soit perçue par le client, alors que finalement, 5% est dévolu à la retranscription, à l'apport de valeur, à la restitution, alors qu'au tout début de la chaîne, on a déjà 30% qui est consacré, ce que j'appelle moi une catastrophe industrielle, est consacré finalement à de l'approvisionnement qui n'apporte aucune valeur ajoutée à personne, ni aux collaborateurs, ni aux clients. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi que je voulais évoquer, je voudrais bien vous entendre là-dessus et vous faire réagir, c'est que, alors moi, honnêtement, si je ne l'ai pas entendu 100 fois, c'est un minimum, mais... Ah mais Franck, vous comprenez pas, le client n'a pas de capacité contributive.
Alors, la capacité contributive est un terme qui a été inventé par les experts comptables. Imaginez chez SFR, par exemple, le directeur du marketing qui discute avec le directeur de la communication, avec le président, et qui dit « Est-ce que vous croyez qu'une famille de 4 enfants aura suffisamment de capacité contributive pour payer un portable à chaque personne ? » Est-ce que vous imaginez chez SFR une discussion aussi bête ? La capacité contributive, qu'est-ce que c'est ? C'est le résultat du fait que dans les études d'experts comptables, il n'y a pas un pouce de formation commerciale et que donc, que fait naturellement celui qui n'a pas de formation commerciale et qui est mauvais commercial ? Il baisse son prix. Le seul bénéfice qu'apporte quelqu'un qui n'a pas de formation commerciale dans son offre, c'est de dire « je vais vous faire une petite remise ». Il se trouve que pendant le confinement, un certain nombre d'experts comptables, je dirais même une majorité, n'ont pas facturé les aides. Il y a des clients à qui on a aidé à prendre 40 000 euros. Ils ne l'ont pas facturé. Et je dirais même pire, il y en a qui ont dit « je vous l'offre et je vous l'offre les 200 euros, je vous offre les 200 euros de temps que j'ai passé à vous obtenir les aides ». Ce n'est pas 200 euros qu'ils offraient, c'est 42 000. C'est 40 000 et 200 euros. Il y a une sous-culture commerciale qui fait qu'en fait, il y a une peur du prix qui est dramatique. Dramatique. Pour moi, c'est la sous-culture commerciale qui explique cette peur du prix. Et aujourd'hui, quand on parle de prix de marché, nous, on sait très bien que dans la même ère, avec le même type de client, ça va du simple au double des prix des experts comptables. Donc c'est faux, cette histoire de prix.
Tu veux rebondir là-dessus, Philippe ?
Oui, alors là, pour une fois, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec André Philippe. Pourquoi ? Parce que d'abord, je suis expert comptable, donc j'ai eu la même formation que tous les gens qui nous écoutent. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Quand on vend de la TVA, quand on vend la valeur, quand on vend une liasse fiscale, honnêtement, j'ai du mal à voir la valeur ajoutée. Alors bien sûr, on retire une épine dans le pied des clients.
C'est le dédouanement des obligations, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, on les débarrasse d'une corvée qui concrètement... ne leur apporte à eux aucun avantage. J'ai toujours plaidé pour une révision du plan comptable général pour comptabiliser les honoraires de l'expert comptable dans la catégorie des comptes 63, c'est-à-dire impôts et taxes, puisque finalement, on n'est ni plus ni moins qu'un impôt en nature, puisque n'importe comment, c'est un moyen de payer de l'impôt. On n'est qu'un moyen pour payer l'impôt et non pas tellement créateur de valeur ajoutée. Maintenant, je prends un autre exemple. Et la raison pour laquelle les clients ne veulent pas payer, c'est effectivement, il y a plein de clients qui disent « moi, je ne veux pas payer ». Et toutes les études de l'ordre disent qu'effectivement, il y a des clients qui trouvent que pour ce qu'on fait, ils ne veulent pas payer. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, quand vous achetez de l'essence, il y a eu beaucoup de débats sur les derniers mois sur le prix de l'essence, honnêtement, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Chez qui vous allez? Chez le moins cher. Parce que l'essence, c'est le même partout, vous n'en avez rien à foutre, 80% c'est de l'impôt, et donc finalement, il n'y a pas grande différence entre un litre d'essence à la pompe et une heure d'expert comptable qui fait une liasse fiscale. Donc, pour ma part, je considère que si on n'a pas le choix, c'est-à-dire que le client, il n'a pas le choix, il faut qu'il passe par un expert comptable, c'est exactement qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il achète de l'essence, qu'il mette de l'essence dans sa voiture, sinon il aura du mal à rouler. Maintenant, quand on parle d'offre, on ne parle évidemment plus de l'offre standard obligatoire, l'alias, le bilan, la TVA, le PVDAG, etc. On parle d'autre chose. Et là, ça change tout. Parce que l'autre chose, c'est justement de la création de valeur. Et là, comme disait André Philippe, là, pour le coup, il avait raison. Faire de la paperasse, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle la paperasse, mais faire, par exemple, la facturation du client, la relance des clients, de nos clients, etc., ça peut paraître, entre guillemets, tout bête, trivial, ça peut paraître, j'ai même entendu dégradant, j'ai pas fait des études pour faire de la relance client ou de la facturation, je suis pas sûr qu'on ait fait des études pour mettre des chiffres dans des cases, mais bon, c'est autre chose. Mais l'idée, c'est que quand on va leur donner des moments de liberté, par exemple pour aller effectivement au cinéma avec leurs enfants ou pour aller même pour développer leur business, avoir plus de clients, faire autre chose, mais ça n'a pas de prix. Et donc là, le client à qui vous allez donner des espaces de liberté, à qui vous allez donner des fenêtres de vie privée plus importantes, etc., bien sûr qu'il est prêt à payer. Il ne sera jamais prêt à payer deux fois le prix son litre d'essence. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à acheter un litre d'essence. C'est un achat obligé, obligatoire, contraint. Donc tout ce qui est contraint, on n'a pas envie de payer. Par contre, la nouvelle offre des cabinets, donc que ce soit du pilotage, de la RSE, que ce soit...
Alors ça, on va en parler, ouais, sur les nouvelles offres.
Là, toutes les nouvelles offres de full service, ou ce que vous voulez, chaque cabinet inventera ce qui plaît à ses clients et ce qu'il a envie de faire. Mais là, on est sur une autre dimension. Et là, effectivement, le client, il a envie de l'acheter. Comme ça n'est pas obligatoire, contrairement à l'alias fiscal ou bulletin de paye, il n'achètera que s'il a envie de l'acheter. Et la relation, elle change radicalement. Parce qu'effectivement, on n'est plus du tout dans un achat contraint, on est dans un achat choisi. Et plus on apportera de valeur ajoutée, plus on sera capable d'identifier la valeur ajoutée qu'on apporte à notre client, plus on sera capable d'abord de lui expliquer, et puis évidemment de le valoriser et donc de le facturer.
Alors moi là-dessus, et là pour le coup, c'est vraiment... Moi, je veux vraiment retranscrire quelque part ce que je vis au quotidien en vous croisant tous, auditeurs. Mais c'est vrai que moi, les cabinets, ils me disent « Vous êtes gentil, Franck, mais moi, je sais, j'ai des clients, ils sont contents, ils sont fidèles. Pourquoi il faudrait que je définisse une nouvelle offre de service ? Quelque part, tout va bien, moi, aujourd'hui. J'ai 80% de mon chiffre d'affaires qui arrive au début de l'exercice. Pourquoi vous voudriez-vous que j'évolue, quoi ?
Alors déjà, ce n'est pas 80%, je pense que c'est 95%. Parce que l'expert comptable qui n'a pas 95% de son chiffre d'affaires signé au 1er janvier, il est en panique totale. Hein. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, il va falloir qu'il change un peu ses habitudes, cet expert comptable-là, parce que le monde autour de nous change. Hein. Très concrètement, notamment, c'est ce dont parlaient Jean Saffort et Dominique Perrier dans un podcast précédent, la facture électronique, ça va arriver. Alors, on ne sait pas quand, d'accord, mais enfin, ça va arriver un jour ou l'autre. Et puis, il y a tous les outils qui font que la mission de base, elle va se banaliser parce que les clients, ils ne vont pas continuer à payer le prix fort, une activité dont ils savent qu'elle est produite en grande partie par des logiciels. Donc, n'importe comment, même si on n'a pas envie de changer, il va falloir faire quelque chose parce que le monde autour de nous va changer. Donc ça déjà, rien que ça, ça va être une obligation de se poser la question. Parce que l'offre traditionnelle, Le périmètre, je dirais, de l'offre traditionnelle, il va se réduire. Alors, je sais qu'il y a plein d'experts comptables qui disent « Mais moi, c'est pas grave, tous les clients, je maintiendrai mes honoraires, etc. » Il n'y a pas de raison. S'il y a des raisons, c'est-à-dire qu'il y a des experts comptables qui vont arriver sur le marché. Il y a pas mal, d'ailleurs, d'experts comptables qui commencent à avoir des stratégies de prix qui sont très différentes des habitudes. Ensuite, il y a des robots comptables. Il y a des néobanques qui vont faire des offres avec des prestations, je dirais, basiques, mais qui rendent service. Et donc, ça veut dire qu'il va forcément falloir s'adapter. Donc, la réflexion de l'offre, personne n'y échappera. Même le petit cabinet de province, il n'est pas épargné par la réflexion sur l'offre.
Je te vois trépigner, André-Philippe.
Enfin, trépigner par rapport à ce que je vais dire, c'est marrant parce que je vais te parler de la même discussion que j'ai eue quand je suis rentré dans la profession comptable il y a 30 ans, où j'ai été embauché par un monsieur qui s'appelait René Ricole. Et René Ricole, il y a 30 ans, il montait un réseau qui s'appelait France Défi et il disait « La tenue va disparaître, donc il faut qu'on monte de nouvelles offres pour faire face à notre avenir. » C'était il y a 30 ans, donc moi je l'ai écouté, j'avais 29 ans, je me suis dit « il parle bien, il est intelligent », ce qui était vraiment le cas. Et donc il m'a appris beaucoup de choses, mais sauf que comme tous les prévisionnistes, René Ricole, il s'était foutu dedans, soit il avait pris ce prétexte pour réunir des gens. En tout cas, la tenue n'a pas disparu et ça fait 30 ans qu'on dit « la tenue va disparaître, il faut qu'on fasse autre chose ». Et donc, sans doute un peu comme Philippe, en tout cas moi, ça fait 30 ans que je surfe là-dessus et qu'il y a des cabinets conscients qui me disent, il y en a très peu qui sont conscients, mais il y en a suffisamment pour 2 ou 3 consultants sur la France. On en parlait tout à l'heure, il y a 20 000 experts comptables, on est 3 consultants. Donc il y en a pas mal qui nous interrogent, et ceux qui nous interrogent sont convaincus que ça va changer depuis des années. Moi, je pense, en fait, qu'on s'en rapproche quand même énormément maintenant du moment où la tenue va disparaître. Hein, parce que elle a déjà, le monopole a quasiment disparu depuis un petit moment, mais ça y est, on y est. Et certains me disent « Oui, mais il va nous rester la révision ». J'en ai eu la semaine dernière, je leur ai dit « Tenez, on va faire un exercice ». J'ai pris un fichier Excel de 450 colonnes et 500 lignes avec des totos partout où j'avais plombé à peu près une dizaine de totos. Et j'ai mis le fichier Excel dans ChatGPT, je dis « trouve-moi les erreurs ». J'ai appuyé, en moins de 10 secondes, il trouve les erreurs de tout le fichier Excel. Donc après, je leur ai dit « si vous voulez, on peut essayer de mettre un fake, on peut essayer de mettre une balance pour voir ce qu'il dit ». Mais en tout cas, pour un fichier Excel dans lequel il y a 50 erreurs, il met une demi-seconde à vous le trouver. Donc je pense que d'ici à quelques années, même la révision, ça risque de bouger. Donc moi, je rejoins Philippe. On n'a pas trop parlé de l'IA. Moi, je m'y intéresse beaucoup en ce moment. Je suis en formation en permanence quasiment tous les matins depuis quasiment 2 semaines. Je vois ce qui peut se faire à la vitesse où ça va. Ça va aller à la vitesse de la lumière. Là, maintenant, on est sur une courbe exponentielle. Donc, c'est urgentissime de définir une offre. C'est urgentissime. C'est urgentissime parce que sans faire de catastrophisme, ça mettra encore un petit peu de temps. Mais maintenant, on y est quand même. Il n'y a pas que la facturation électronique. Il y a l'IA aussi. On y est vraiment. Donc, définir une offre pour moi, c'est d'abord, et on va y revenir à la stratégie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, en tant qu'expert comptable, qu'est-ce que j'ai envie, c'est quoi mon envie. Le moteur, ça va être, au départ, ça va quand même être le patron. Donc le moteur, c'est l'associé, c'est lui qui va entraîner ou pas. Donc il faut qu'il fasse un truc dont il a envie. Et là, c'est urgent. Pourquoi c'est urgent? Moi, j'entends qu'ils disent, oui, on aura d'autres missions. Moi, j'en ai connu qui ont dit, quand le RGPD est sorti, oui, bon, on a une mission RGPD. Mais finalement, il n'y en a que quelques-uns qui ont profité du RGPD. Qui sont ceux qui ont profité du RGPD? Moi, j'ai des clients qui en ont profité. Certains ont dit, on va mettre en place une offre RGPD et tous nos clients concernés vont leur proposer. Ils ont immédiatement embauché deux personnes qui n'étaient pas experts comptables, mais qui avaient fait quand même des études de manière à être capables de mettre en place une démarche RGPD dans un cabinet. Et donc là, la difficulté, ça va être pour la profession, ça va être de se dire que maintenant, les compétences qu'il va falloir aller chercher, ce n'est pas les compétences forcément qui sont internes, c'est d'autres compétences. Donc moi, ce que je me tue à dire à tous mes cabinets, c'est commencer à embaucher des compétences qui soient complémentaires aux comptables, qui soient des non-comptables, qui après vont peut-être diffuser d'autres cultures sur d'autres offres. Mais en tout cas, si on revient au podcast de la semaine dernière, il est quand même urgent de décider, parce que le cabinet ait 10 personnes, 20, 10, 50 ou 100, monter une offre sur le papier, c'est pas compliqué. Moi, si tu me dis comment je te markete une offre, je te la markete très rapidement. Ce qui est compliqué après, c'est de mettre en place la production et les hommes qui vont la produire. C'est le podcast suivant.
Justement.
C'est le podcast suivant. Mais globalement, moi, j'en connais plein qui ont monté des offres et puis qui ont dit « Ouais, ben on verra bien après comment on la produit ». Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est lié.
Justement, au niveau des offres, là-dessus, est-ce que vous pourriez un tout petit peu, Philippe, par exemple, est-ce que tu pourrais nous aiguiller sur les missions, finalement, qui sont possibles aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réformes ces dernières années, donc il y a eu de plus en plus de, je dirais, de champs des possibles qui sont ouverts. Pour autant, on le disait tout à l'heure avec la paperasse, ou entre guillemets, la semi-paperasse, on dit bah, déjà, comment je relance mes impayés, etc. Bah, voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être réalisé hein, par le cabinet d'expertise comptable, qui peut très bien avoir mandat de son client à cet effet. Mais voilà, au-delà de ça, c'est quoi les exemples d'offres justement quand vous travaillez avec les cabinets sur la définition de leur offre ? Qu'est-ce que vous voyez un petit peu dans le...
Alors, déjà, je vais revenir sur un bout de ta question, sur la réglementation. Ça, c'est vraiment, pour moi, une réponse qu'on me fait très souvent. Mais est-ce qu'on a le droit ? C'est-à-dire que, objectivement, aujourd'hui, je ne vois pas trop
d'interdiction.
C'est-à-dire que la réglementation de est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, objectivement, aujourd'hui, mis à part quelques activités, franchement, dont je ne vois pas l'utilité dans un cabinet, sinon, globalement, les activités de conseil, les activités de formation, les activités d'accompagnement, etc., elles sont toutes autorisées. Donc, il y a vraiment... Il n'y a plus de questions sur ce sujet-là. Donc, si un expert comptable a envie de développer une mission, ce n'est pas la réglementation qui va l'en empêcher. Et au pire, si vraiment il y avait un souci, je ne vois pas bien lequel, mais enfin, on ne sait jamais, eh ben, il filiale à 100% de son cabinet et il filialise son activité qui ne pourrait pas être logée dans un cabinet, mais encore, je répète, je ne vois pas trop laquelle. Donc ça, c'est sur la réglementation qui est souvent un prétexte utilisé par les cabinets pour rien développer. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut développer ? Ben, une fois qu'on a dit qu'on pouvait à peu près tout développer, il va falloir choisir. Parce que celui qui fait tout, c'est autrement dit quelque chose, en gros, il fait rien. Donc, pour éviter de dire qu'on est capable de tout faire et donc en pratique de ne rien faire pour personne, la meilleure des solutions, c'est certainement de définir quelles sont les missions qui ont le plus de chances d'aboutir, le plus de chances de marcher. Alors, j'ai essayé, dans une étude notamment des Moulins qu'on a publiée sur quelles sont les missions de demain, on avait identifié, on avait décortiqué, je crois que c'était 150 missions différentes dont on avait essayé d'identifier les caractéristiques pour chacune d'entre elles. On a fait une taxonomie et on a mis, je ne sais pas quoi, une quinzaine de colonnes Excel. On a mis sur Excel une quinzaine de colonnes et on a essayé de mettre des critères pour voir un petit peu si on pouvait classer toutes ces missions. Et en fait, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait différentes catégories de missions, je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas que les critères qui faisaient qu'un cabinet normal... Quand je dis un cabinet normal, je ne parle pas d'un big, je ne parle pas d'un cabinet hyper spécialisé, je ne parle pas d'un cabinet qui a décidé d'avoir une stratégie complètement de niche.
Le cabinet lambda.
Un cabinet normal de moins de 50, même de plus de 50, mais je dirais qui reste tout à fait classique. C'est quoi les critères pour que ça marche ? Le premier des critères, c'est déjà qu'on vende des missions que les clients ont envie d'acheter. Donc c'est peut-être un peu trivial comme explication, mais... Comme on ne sera plus obligé d'acheter demain la prestation des cabinets, c'est pas mal que des clients aient envie de l'acheter. La deuxième condition qui me semble intéressante, c'est qu'on soit capable de la produire, cette mission. Alors, c'est peut-être là encore tout à fait trivial, mais quand on me dit qu'on va développer des missions de cybersécurité, de RSE, d'accompagnement à l'export, de gestion de patrimoine, tout ça, moi, je suis admiratif parce que je suis parfaitement incapable de faire aucune de ces quatre missions. Mais en plus, ça nécessite des vraies compétences. C'est-à-dire que moi, je suis très favorable, hein, j'ai pas de débat, j'ai pas de sujet, mais pour toutes ces nouvelles missions, il faut se former. Le fait d'être expert comptable n'est pas, enfin, en soi, ne permet pas de faire des missions de gestion de patrimoine, si ce n'est de faire une déclaration d'IR ou d'IFI, mais ce n'est pas ça faire la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, c'est donner des conseils, améliorer, optimiser, proposer des solutions alternatives, etc. Donc ça veut dire qu'il faut une vraie expertise. Et ça, malheureusement, ce n'est pas les collaborateurs à qui on va décharger de certaines tâches qui faisaient de la tenue et de la collecte de pièces qui vont faire demain de la gestion de patrimoine, de la RSE ou de la cybersécurité. Ensuite, troisième critère qui me semble fondamental, c'est que ces missions soient récurrentes et qu'elles soient accessibles au plus grand nombre de clients. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que la cybersécurité, quand vous avez 80% de vos clients qui sont des commerçants et des artisans, alors bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas utile. Mais je veux dire, quand on est boulanger, la cybersécurité, ce n'est pas la principale préoccupation. Donc ça veut dire, et quand bien même on est très bon vendeur, parce qu'on a écouté les conseils d'André Philippe, et qu'on arrive à leur vendre une mission de cybersécurité, si on arrive à la faire...
Non, ça serait du vol, parce qu'il n'en a pas besoin.
Si on arrive à la faire, si on la vend, mais il l'achètera combien de fois ?
Une fois.
il achètera une fois. Et donc, il n'y a aucune récurrence à ces missions-là. Je vous rappelle qu'on est en train de remplacer des missions de type TVA, de type tenue, de type extrêmement récurrent, avec des contacts réguliers, avec des... par des missions qui auront lieu tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans, tous les dix ans. Mais concrètement, comment on va faire ça ? Quand on fait, je ne sais pas quoi, de la gestion de patrimoine et qu'on fait un démembrement de propriété, une cession temporaire d'usufruit, on la fait tous les 10 ou 15 ans. Et donc, on fait quoi pour bouffer entre les deux ? Et le dernier critère, c'est encore plus trivial, alors là, je suis obligé de m'en excuser par avance, mais il faut que ces missions soient facturées, qu'elles soient payées, qu'elles soient rentables. Voilà. Donc, à mon avis, une fois qu'on a fait cette liste de critères, on a des dizaines de missions qui arrivent, que tous les cabinets, y compris les tout petits qui ont trois collaborateurs, peuvent parfaitement faire. Il y a un champ des possibles qui est extrêmement vaste. Donc, ne nous lançons pas dans des missions compliquées qui vont intéresser 3% des clients et qu'on va mettre des mois et des mois à produire ou à inventer. Faisons simple, parce que c'est ce que les clients veulent. Ils veulent de la proximité, de la présence, de la récurrence, de l'accompagnement, et ils ne veulent pas des trucs super compliqués.
André-Philippe, là-dessus ?
Je suis désolé pour les auditeurs, mais je vais être aussi trivial que l'a été Philippe. Mais en fait, il parle de trivialité. Il a donné des critères qui sont des évidences qu'il faut respecter à tous les coups. Alors, si je dois en rajouter un, mais c'est encore plus trivial, selon la taille du cabinet, parce que ce n'est pas toujours possible, moi, j'insiste toujours pour qu'il y ait un spécialiste. À partir du moment où il y a un spécialiste qui n'est plus comptable et qui fait 100% de son temps sur la mission, on a une chance qu'il le fasse et qu'il ne soit pas rehappé par la compta. Donc, en fait, et des cabinets disaient que ce n'était pas possible avant de passer aux services sociaux, aux services juridiques. Moi, je suis le grand spécialiste des cabinets qui ont une demi-personne juridique et qui me disent « Oh, on ne va pas réussir à faire du conseil juridique ». C'est normal, il n'y a personne à embaucher quelqu'un. Donc en fait, ces cabinets-là qui embauchent une personne de plus de juridique, eh bien, finalement, au lieu d'avoir une personne, ils en ont deux, et commencent à faire du conseil juridique, parce que ça aussi, il y en a plein à faire partout. Donc en fait, moi je dis que s'il y a une personne à 100% sur un poste, c'est un critère de plus. Ce n'est pas forcément possible selon la taille du cabinet. Par contre, ça ouvre le champ des possibles par rapport aux gens qui sont en réseau. Il y a pas mal de groupements, il y a pas mal d'associations. Et aujourd'hui, moi, je suis ahuri de voir que dans les groupements, il y en a plein que je connais et certains que je drive, d'accord, ils ont encore du mal à dire, rendez-vous compte, on a quand même laissé le conseil retraite à la mondiale. D'aller faire ce qu'ils appellent l'APS, c'est vachement bien l'APS, mais avoir un logiciel qui te fait réfléchir sur ton bilan retraite, mais tout le monde en a besoin. Donc là, c'est comme tout le monde en a besoin. Et ça, tu peux le faire chaque année à tous tes clients, il y a plein de trucs là-dedans. Mais pour ça, il faut quelqu'un. Et bien, j'ai plein de cabinets qui me disent, on a confié ça au social, mais tu comprends, elles ont aussi une sociale à faire. Je dis, oui, c'est pour ça qu'il faut qu'ils ne fassent que ça. Donc moi, je pense qu'en fait, un autre critère qui est aussi trivial, c'est que si tu as une personne qui s'occupe à 100% du truc, ça va marcher. Par contre, je partage tout ce qu'il a dit sur de chercher de la récurrence, d'arrêter de dire on va devenir expert de la cybersécurité comme ça, en disant je suis expert compta, je passe 7 ans d'études pour apprendre à faire de la compta et je deviens tout d'un coup expert en cybersécurité. Et demain, tu vas avoir ceux qui vont se déclarer, ils vont arriver bientôt, ceux qui vont te dire l'IA Act, ils vont aller te faire la conformité des entreprises à l'IA Act, alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, je souscris mais à 100% dans le choix des missions. Alors, dans le choix des missions, on est quand même reçu ici et bien reçu. Donc, ce que je préconise très souvent, c'est tout ce qui est assistance administrative, en mettant à disposition, moyennant finance bien sûr, du client, des logiciels comme Bobby par exemple. Parce qu'effectivement, quand on met un logiciel comme Bobby en place chez un client, on lui permet de faire sa facturation facilement, on lui permet de relancer plus rapidement tous les clients qui sont sur Excel et sur Word, qui disent « ouais, c'est facile ». En fait, ceux-là, ils ne font pas de relance. C'est ceux-là qui ont des impayés. Donc ceux-là, c'est assez facile de leur dire, pour limiter le temps de relance et des impayés, mettez en place un logiciel qu'on vous met à disposition. C'est du récurrent aussi, hein, parce que c'est du récurrent. Quand on met une GED à disposition d'un client pour lui permettre de classer tous ses papiers, tous les clients, ils se retrouvent, certains, à ne pas savoir classer leur ordinateur, ils en ont partout, ils en ont dans les mails, dans les disques durs. Tu leur mets une GED à disposition, mais tu les libères d'un temps passé à classer, chercher et surtout trouver leurs papiers. Donc, toutes ces missions-là où on commercialise un logiciel en prenant une marge au passage, c'est des missions récurrentes où on permet aux clients de gagner un temps phénoménal et ça rentre tout à fait dans le cadre. Voilà. Et je terminerai en disant qu'il y a un truc que j'arrive toujours pas à comprendre. Moi, je passe ma vie à faire travailler des collaborateurs sur l'approvisionnement. L'approvisionnement, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure sur la collecte, il y a une seule chose qu'ont pas compris les collaborateurs et qui est très difficile à faire comprendre, c'est que les factures, elles ne se perdent pas avant d'entrer dans le classeur ou dans le scanner, elles se perdent avant. Donc, il faut aller aider le client à s'organiser avant dans ses flux. Et ben, là-dedans, dans l'organisation du client, dans la façon de classer ses papiers et de faire remonter les flux, et dans l'assistance informatique, puisque tout ça va devenir informatique, là, il y a des choses. Aujourd'hui, tous les cabinets pourraient monter un poste d'assistance et d'installation de digitalisation, c'est leurs clients, et de veille, puisque ça va à 200 à l'heure. Donc, je ne vois pas pourquoi les petits clients, même le boulanger, tu as le boulanger qui a sa caisse et qui ne sait pas forcément comment tirer son ticket Z. Et donc, non seulement il s'embête parce qu'on l'appelle 12 fois parce qu'il fait ça sur un papier à côté, mais en plus, il embête le cabinet. Donc, moi, je pense qu'il y a un poste, il y a une mission récurrente dans l'organisation informatique de tous les clients, petits, moyens, gros. Voilà. Mais je souscris totalement à la trivialité de ce que dit. Je suis désolé de ne pas être plus intelligent, mais j'y arrive pas. J'essaye, hein, mais bon, c'est trivial ce qu'on dit. Nous, on est vraiment des consultants...
De terrain. Voilà. Et en fait, je crois que pour définir la mission, chaque cabinet définira celle qui lui convienne, évidemment. Mais je crois qu'il faut vraiment garder en tête qu'un peu de bon sens, ça ne peut pas faire de mal. C'est-à-dire que les grandes missions de demain, c'est très concrètement des missions qui concernent le maximum de cabinets et le maximum de clients. Et donc, très concrètement, on va être dans des missions simples, mais qui sont extrêmement recherchées. Toutes les études de l'Ordre des experts comptables sur les 20 dernières années arrivent toutes à la même conclusion. Les clients demandent de la présence, demandent de la proximité, demandent de l'aide à la prise de décision, demandent des tableaux de bord, demandent de calcul de coûts, demandent de la gestion de trésorerie. Enfin, que des trucs qu'on est parfaitement capable de faire, que tous nos collaborateurs de DCG, DSCG peuvent parfaitement faire. D'accord, on ne leur a jamais demandé. Donc, évidemment, ils ne se sont pas spontanément lancés là-dedans. Mais lançons-nous. Et ils ont parfaitement les compétences. Il faut les rassurer sur le fait qu'ils sont parfaitement capables de faire ça. Mais je veux dire, on a les compétences en interne qui auront plus de temps bientôt. On a les clients qui sont intéressés. On a des clients qui sont prêts à payer de manière récurrente des missions. Ces missions sont extrêmement récurrentes. C'est des missions simples. Alors, je partage, mais à 100% ce que vient de dire André-Philippe sur la dimension accompagnement administratif, donc ce qu'on appelle souvent le full service, c'est-à-dire la facturation, le règlement des fournisseurs, la gestion des achats, la pré-comptabilité, la préparation de l'information comptable, les relances clients, enfin, tout ça, je suis 1000% d'accord. Et puis la deuxième grande catégorie, c'est évidemment toutes les missions liées au pilotage, donc à la prise de décision, l'accompagnement du dirigeant qui souvent est tout seul, qui ne sait pas s'il faut, est-ce que j'achète mon photocopieur ou est-ce que je le loue, est-ce que j'achète une voiture ou est-ce que je la prends en crédit bail, est-ce que j'embauche ou j'embauche pas, est-ce que combien je peux me payer, rien que ça, cette mission, elle est quand même triviale, incroyable. Combien me coûte, est-ce que je peux accepter tel client qui me demande une remise de 20%, sachant qu'il me passe une très grosse commande? Est-ce que je vais être en dessous de mon seuil de rentabilité ou au-dessus? Est-ce que, moi, l'autre jour, j'étais dans un cabinet que j'accompagne et qui me dit, voilà, j'ai des clients, j'ai beaucoup de restaurants. Parmi les questions qu'on nous pose très régulièrement, c'est est-ce que je continue à ouvrir en semaine le soir? Parce que entre les extras que je dois payer, l'électricité, l'ensemble des charges
est-ce
qui sont liées...
Est-ce que je gagne encore de l'argent?
Voilà. Est-ce que je gagne encore de l'argent, sachant qu'en plus, j'ai du mal à recruter? Donc, en fait, je vais cramer des ressources rares qui vont être là pour le mardi soir pour servir, alors que je vais avoir 3 clients. Est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt, ces ressources-là, à leur dire, le mardi, tu restes chez toi, tu es tranquille, tu es avec ta famille? Et à l'inverse, voilà. Donc, c'est ça ce qu'attend le client. Et on ne sera jamais aussi bien placé que si on répond aux attentes du client.
Donc là, vraiment, à vous entendre, je pense que c'est limpide. Il faut, de manière urgente, passer d'une stratégie de la demande à une vraie stratégie de l'offre. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, André-Philippe ?
Oui, parce que en fait, une des préoccupations aussi de beaucoup de cabinets, c'est de dire, finalement, là où il y a du danger, c'est sur les collaborateurs qui, eux, sont plus menacés par l'IA que nous, experts comptables. Les exemples qu'il a donnés sont des exemples de conseils qui sont plutôt de l'expert comptable ou des chefs de mission. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à réfléchir à dire, si on prend le conseiller en gestion, qu'il y a des conseils courants et des conseils un peu plus experts. Si je prends l'exemple du conseil courant, je vais prendre un exemple très simple, pas mal de cabinets ont fait ça. Le 22, on prend tous les clients, on appelle ça passer du client douteux au client. Parce qu'on s'est rendu compte que les collaborateurs, ils n'ont pas de problème pour appeler leur client en fin d'année au moment du bilan. Allô, est-ce que je dois passer ce client en douteux ? Donc, ils appellent leur client pour demander si le client qui doit de l'argent à leur client, on doit le passer en douteux. Là, bizarrement, ils n'ont pas de problème pour l'appeler. Moi, je leur ai dit, on va anticiper ça. Tous les mois, c'est ce qu'on va faire. On va regarder les clients qui ont des clients avec des créances. On va les appeler en leur disant, allô, ouais, je vous appelle parce qu'il y a un tel qui vous doit 40 000 euros. Depuis quand vous ne l'avez pas relancé ? Ils me disent, mais on peut pas lui demander ça. Ben si, justement, parce que peut-être que s'il le relance, peut-être que vous ne l'aurez pas à la fin de l'année en douteux. Donc, il vaudrait peut-être mieux appeler maintenant votre client pour l'aider ou lui faire penser qu'il doit relancer pour ne pas perdre une créance, que de l'appeler pour constater dans les comptes qu'il l'a perdu. Bon, et ben, quand on fait ça et qu'on dit le 21 la TVA, le 22 on appelle les clients, et ben, les collaborateurs, il y en a plein qui jouent. Alors, au début, ils ont un peu peur. Et puis, il y a le client qui leur dit « Ouais, vous avez raison, ça fait un moment que je ne l'ai pas relancé. » Ils raccrochent, ils ont le sourire. Ils ont le sourire et ils se disent « Peut-être que j'ai aidé mon client à gagner un peu d'argent. » Donc ça, moi, c'est ce que j'appelle le conseil courant et les alertes. Et je pense qu'en fait, dans un cabinet, on peut segmenter, mais je pense qu'on en parlera dans le prochain podcast sur les RH, hein, mais on peut segmenter entre ce qu'on peut confier à des collaborateurs, il y a pas mal de choses contrairement à ce qu'on croit, et puis tout le reste, c'est tout ce qu'a pu citer Philippe là à l'instant dans ses très bons exemples. Et après, du coup, on a une offre de conseils d'anticipation qui concerne un peu tout le monde et on peut faire progresser les gens à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Donc maintenant, j'ai défini mon offre. Merci à vous d'avoir effectivement contribué à éclairer un petit peu les auditeurs sur ce sujet-là. Finalement, est-ce que le cabinet, lui, maintenant, a besoin de faire du marketing de cette offre ?
Alors, moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'aime le côté terrain et le côté pragmatique des choses. Faire du marketing, alors je vais peut-être, une fois de plus, dénoter un peu, mais pour moi... c'est un peu inutile d'aller sur les réseaux sociaux et de faire sur Facebook, Instagram, etc. des offres. Ça, c'est bien pour une certaine catégorie de cabinet, hein, y a pas de doute et c'est très très bien. Et je critique pas du tout ceux qui font ça. Je dis juste que déjà, quand on n'y connaît pas grand-chose, quand on sait pas trop faire, si on écrivait ou si on parlait à nos clients en leur expliquant ne serait-ce que ce qu'on fait, on définit 2-3 offres. L'aide à la gestion de trésorerie, l'aide au tableau de bord, et puis l'aide à la facturation, la relance client, etc. 3 choses. Tous les cabinets de France et de Navarre peuvent faire ça, d'accord ? C'est pas bien compliqué, ils travaillent, ils préparent ça, et donc voilà. Une fois qu'ils ont fait ça, ils prennent 5 clients du cabinet dont ils pensent qu'ils sont des cibles un peu privilégiées. Ils déjeunent avec eux, ou ils vont les voir à l'occasion de l'arrêté des comptes, d'accord ? Donc, on va voir le client, on prépare ses comptes pendant le déjeuner ou pendant le café, on leur dit, j'ai vu que votre trésorerie, elle était, est-ce que vous ne voudriez pas qu'on vous file un coup de main là-dessus ? Mais le client, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il réponde oui, sans passer par les réseaux sociaux, sans avoir un content manager, sans avoir de l'inbound marketing, sans avoir des community managers ou je ne sais quoi. On parle à un client en lui disant qu'on peut lui filer un coup de main là où ça ne va pas pour lui. Et rien que ça déjà, si vous signez 5 clients à qui vous faites de la gestion de trésor ou du tableau de bord ou de l'accompagnement, vous aurez largement compensé la baisse éventuelle des honoraires sur la mission traditionnelle ou voire même vous aurez de quoi occuper un nouveau collaborateur. Donc, bien sûr, le marketing, c'est très, très bien. Je dis pas le contraire. Il faut avoir un site internet, il faut avoir des fiches missions sur ce qu'on propose au client. Parce que si jamais il est intéressé, il faut quand même qu'on ait 3-4 trucs à lui montrer. Mais la fiche mission, c'est un PowerPoint bien fait avec ce que disait André Philippe, c'est-à-dire avoir un peu les bénéfices de ce que ça va lui apporter, le gain de temps qu'il va avoir, la sécurité, des clients qui paieront mieux ou je ne sais quoi. Mais voilà, mais il s'agit pas de se lancer dans des trucs, une campagne télévisée ou je ne sais quoi. Faisons simple. Et honnêtement, ça marche super bien.
Merci Philippe. Alors justement, là-dessus, je propose de prendre ta transition et de passer la parole à André Philippe, parce que je sais qu'il accompagne beaucoup aussi les collaborateurs dans le domaine du commerce. Donc Philippe parlait de fiches mission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les collaborateurs, finalement, ne sont pas des commerciaux. Donc concrètement, comment faire pour proposer cette offre de service, pour faire adhérer le client derrière ?
Alors déjà, je voudrais dire que je suis d'accord avec Philippe. C'est-à-dire que pour la majorité des cabinets, quand même, il y a quand même de l'or en barre dans les cabinets, c'est qu'ils ont leurs clients. C'est-à-dire que globalement. Et comment les cabinets se sont développés dans le passé? En faisant la tournée de TVA. Ils allaient voir leurs clients pour la TVA, ils leur disaient comment ça va, ils discutaient un peu avec eux, et puis voilà. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est que depuis qu'il n'y a plus la tournée de TVA, on a perdu un peu dans la relation client, parce que ce moment, maintenant, il y a un mail automatique qui part et qui est dit au client qu'il a payé ou qu'il va avoir à payer X milliers d'euros de TVA. Donc, il y a cette perte-là. Depuis qu'il y a cette perte-là, effectivement, l'efficiel est beaucoup intervenu dans comment combler cette perte-là et convaincre les collaborateurs qu'ils ont un énorme rôle à jouer dans le fait de conserver cette relation qui existe de moins en moins. Alors, quand on me dit les experts comptables ou les collaborateurs ne sont pas des commerciaux, moi, ça me fait rire d'une force parce que j'ai dû en former depuis... Efficial en a formé, entre collaborateurs et experts comptables, depuis 1996, plus de 20 000. Et donc, plus de 20 000, oui, tu as bien entendu sur le sujet, plus de 20 000. Au total, ça fait ça en 30 ans. Et à chaque formation, au début, c'est « Ah ben nous, on n'est pas des commerciaux ». Et au bout de deux jours, les types, ils te regardent en disant « Ah bon, c'est ça le commercial, mais finalement, on peut le faire bon. ». Alors, à qui on a affaire? On a affaire à des gens à qui on a... excusez-moi, je vais être un petit peu provocateur. À qui on a fait croire qu'il fallait 7 ans d'études pour faire des 8 crédits et que par contre, ça, il faut 7 ans d'études pour apprendre à faire des 8 crédits, mais par contre, ils disent « on n'est pas des commerciaux » alors qu'ils n'ont même pas eu une heure d'études sur le sujet. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est des gens qui sont habitués à avoir des normes. Donc, ils fonctionnent tous avec des normes. Et ils ont bien raison, parce que ça sert à ça, les normes. Les normes, ça sert à être bon. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand tu as ton savoir qui est acquis sur une norme que tu maîtrises absolument, eh ben, quand tu n'as pas de normes, eh ben, tu es complètement perdu. Donc, en fait, dans le commercial et dans le marketing, ils ne sont assis sur aucune norme. Tu demandes, c'est quoi les normes principales en matière commerciale? Personne ne les connaît. Tu demandes en matière comptable. Vous savez comment je commence mes formations? Je leur dis, dans quel compte de charges on enregistre les charges URSSAF? Donc je fais une interro, là, ils me disent tous 645. Je dis, vous êtes des monstres. C'est inné la comptabilité, je leur fais. Ils me disent, mais non, on l'a appris par cœur. Je dis, ben oui, ben moi je vais vous en faire apprendre par cœur des trucs aussi. Donc déjà, dès que tu commences à te servir du côté mécanique des comptables, tu en as déjà 80% qui à la fin font, mais finalement, c'est facile quand on a des normes. Et puis tu as les 20% dont, effectivement, que tu n'arriveras jamais à transformer. Donc, pour moi, il faut les transformer. La deuxième technique que j'ai utilisée pour les transformer, c'est d'aller dans le sens de ce qu'ils ont à faire. Donc nous, par exemple, on a monté des séminaires sur la relation équitable. Ce qui s'appelle la relation équitable, c'est faire en sorte que le client leur passe les pièces plus rapidement. Mine de rien, un collaborateur sans formation, il est capable de dire « Allô, donnez-moi les pièces, j'ai pas les pièces, par exemple, j'ai pas les tickets de parking ». Où j'ai pas les tickets d'autoroute. Il est capable d'appeler 3 fois. Et quand il a appelé 3 fois, il a les tickets d'autoroute. Moi, je lui demande, mais et le mois prochain, ça va se passer comment? Ben, il me dit, je vais rappeler. Ben, je vais rappeler. Et je lui dis, et tu lui dirais pas de prendre l'abonnement autoroute? Ok. Alors, il appelle et il fait, il faudrait que vous preniez l'abonnement autoroute, parce que comme ça, j'aurais pas à vous les réclamer. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, le client du collaborateur? Alors, moi, je lui dis, tu sais, en matière commerciale, toi, tu connais 645, moi, je vais t'expliquer, on va le faire. Si tu lui parles de lui, c'est mieux. Si tu lui dis, par exemple, combien de temps vous attendez au péage tous les soirs? Une demi-heure, vous feriez quoi à la place si vous aviez cette demi-heure? Il demande à son client, je rentrerai plutôt chez moi. Alors, si tu lui disais, il faudrait que vous preniez l'abonnement autoroute, ça vous fera gagner une demi-heure tous les soirs pour rentrer plutôt chez vous, là, ça va l'intéresser. Là, je vous ai fait en 2 minutes un cours de vente. Notion de bénéfice, deux questions, et au lieu de te vendre le truc en parlant de toi, tu vends le truc en parlant de lui, de sa femme et du temps qui passe au péage. Ça, c'est la base de la base de la base du début du commencement du prélude du commercial. Mais quand vous passez 2 jours avec n'importe quel type de collaborateur, ils l'apprennent. Et donc, moi, je suis rentré dans le commercial avec beaucoup de collaborateurs en me servant du commercial pour améliorer la collecte. Parce que ce qui leur prend plein de temps et du temps négatif, c'est la collecte. Donc maintenant, je les coach, et en rentrant par là, ils se disent, je leur dis même pas qu'ils font du commercial. Ils se disent, tiens, c'est marrant, avec ces trucs, c'est plus rapide pour obtenir les papiers. Oui, c'est bien sûr que c'est plus rapide. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'abonnement autoroute. Le seul endroit où je suis un peu embêté, c'est en Alsace, parce que quand je le prends, il n'y a pas d'autoroute. Mais vous traduirez. Donc oui, on peut bouger les gens en leur donnant quelques bases, et puis des moyens d'appliquer ce qu'on leur dit dans leur quotidien. Et dès lors qu'on leur donne des bases et qu'on leur fait appliquer dans leur quotidien, ils y arrivent. 80% y arrivent. Et tu as les 20%, comme d'habitude, qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont contre. Ils se disent qu'ils ne sont pas capables. Mais la plupart se disent nouveau convertis au bout de 2 jours. Enfin bon, je ne sais pas quelle est ton expérience, mais ça doit être...
Non, je partage évidemment ce que tu dis, mais en fait, je pense que... Alors moi, je ne suis pas du tout un commercial, donc je fais partie de la catégorie dont parlait tout à l'heure André-Philippe, c'est-à-dire que je suis un expert comptable avec une formation classique d'expert comptable, tout ce qui est de plus classique. Donc je n'ai pas eu de formation de marketing, je n'ai pas eu de formation de commercial, je n'ai pas eu de formation à la vente. Et donc, voilà, donc moi, je suis fils de commerçant, donc je connais la vraie vie. Donc, et en fait, ça marche aussi bien. C'est-à-dire qu'en fait, les collaborateurs, je ne crois pas qu'ils soient globalement capables de vendre. Pour la plupart d'entre eux, parce que ne serait-ce qu'ils n'en ont pas envie. Et c'est pas forcément qu'ils ne sont pas capables, mais ils n'ont pas envie. Donc, quand on n'a pas envie, on n'est pas bon. Et quand on n'est pas bon, ben, on ne fait pas. Par contre, vraiment, je suis archi convaincu que, à défaut de vendre, ils peuvent faire acheter. C'est-à-dire que...
À expliquer le bénéfice.
Mais bien sûr. Et par exemple, typiquement, il y a plein de collaborateurs, si on leur... explique ce que c'est un peu que la troisième oreille, c'est-à-dire écouter un peu différemment le chef d'entreprise, détecter dans ce qu'il dit des besoins auxquels on ne répond pas. Par exemple, vous allez le lundi chez un client, le client il râle parce qu'il a passé son dimanche après-midi à faire sa facturation. Il dit j'en ai marre, fais chier, je passe tous mes week-ends à faire. Mais là, le collaborateur qui est un petit peu malin, pas commercial, un peu malin et qui aime bien son client. Ben, il rentre au bureau en disant le client, il a dit qu'il passait tous ses dimanches après-midi, au lieu d'aller au square avec ses gamins, à la piscine ou je sais pas quoi, ou au cinéma, il passe à faire sa facturation. Mais on pourrait pas le soulager, lui filer un coup de main, etc. Et c'est ça, faire du commercial, alors je suis pas aussi expert qu'André-Philippe, mais pour moi, faire du commercial, c'est ça.
C'est
identifier un besoin même basique, pour apporter une réponse très concrète. Et ça, le cabinet a apporté une réponse très concrète, il sait faire. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est imaginer que le collaborateur, qui est en face d'un client, il va arriver et il va faire signer la lettre de mission. Il ne le fera jamais, ce n'est pas son métier, il ne sait pas faire, il n'a pas envie de faire, etc. Par contre, détecter les clients qui ont des besoins, détecter les choses qu'on pourrait améliorer, proposer et voir ce qui se passe dans les entreprises et voir comment on pourrait l'améliorer, il y a 80% des collaborateurs qui sont parfaitement capables de le faire.
Oui, et donc, mais sur le sujet de la fin... Moi, j'ai bien aimé le confinement pour ça, parce que pendant le confinement, les cabinets se sont dit, si on veut conserver un peu une chance de continuer à facturer, il faut qu'on appelle nos clients pour leur demander comment ils vont. Hein, puisqu'on ne peut pas les appeler pour leur demander de nous passer des papiers, il n'y a plus de papiers. Donc, ils ne font plus de factures. Et donc, les cabinets ont découvert ce qu'on appelle, nous, qu'on fait depuis des années, l'appel de courtoisie. Donc, ça fait des années que moi, je dis aux collaborateurs, écoutez, on va appeler le client pour lui demander comment il va. À l'occasion, il y a eu un tsunami chez lui, par exemple, à La Rochelle, il y a eu un tsunami. On va appeler tous les gens qui ne sont pas loin de la côte pour demander comment ça s'est passé. Et là, ils me font, mais comme ça, je dis oui, comme ça, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Et en fait, ils te disent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le client, il est ravi qu'on l'appelle pour lui demander comment ça va. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que quand tu commences un peu à le mécaniser. Moi, il y a des cabinets où j'ai fait ça, toujours la même recette. Le 21, la TVA, le 22, l'appel de courtoisie. Allez, on appelle tous pour regarder ce qui se passe. Et les mecs, ils te disent, mais c'est formidable parce qu'en fait, on détecte des missions. Exactement ce que tu disais. Parce que comme ils parlent à leurs clients différemment, allô, comment ça va, le client, il parle d'autre chose. Et quand il parle d'autre chose, il se dit, c'est vrai que je me suis cassé les pieds à faire ma facturation dimanche après-midi. Mais quand tu l'appelles pour lui demander les papiers, t'en parles pas de ça. Donc en fait, moi, je rejoins tout à fait ce que dit Philippe. Après, ce sur quoi, mais on n'a pas un point de désaccord, c'est qu'en fait, pour moi, vendre, la division de vendre, c'est faire acheter. Donc, alors que dans l'imaginaire collectif, le vendeur ou le commercial, c'est un voleur. Pour moi, le vendeur qui vend un truc où il n'y a pas de bénéfice, c'est un voleur, c'est pas un vendeur. Donc, pour moi, le vendeur, c'est faire acheter. Le vendeur, c'est la démarche, c'est faire acheter. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est pour ça que je pense, que, paradoxalement, que donc il y en a beaucoup qui sont capables.
Alors justement, on a parlé beaucoup aussi d'outils, de digitalisation, de la dématérialisation, de l'IA, de ChatGPT, etc. Enfin, aujourd'hui, finalement, comment inciter le client à utiliser les outils de digitalisation qu'on lui propose? Parce que ça aussi, c'est un sujet évidemment qui est prégnant dans les cabinets, parce que quelque part... Ça a commencé un petit peu avec il y a une quinzaine, une vingtaine d'années avec la dématérialisation, les scanners. T'en parlais, sur un épisode précédent, André-Philippe, sur les cabinets qui livraient des scanners à leurs clients. Et c'est vrai que finalement, Aujourd'hui, on voit bien que ça aide quelque part le processus de production du cabinet. Si ça aide le processus de production du cabinet, ça veut dire qu'il aura du coup plus de temps à consacrer justement à l'offre de services dont on vient de parler à l'instant. Donc comment arriver, André-Philippe, à inciter le client à utiliser ces outils?
Ouais. Alors ça, c'est un sujet central en ce moment, et tu as bien raison de le poser dans la catégorie, dans le podcast consacré à l'offre et au marketing et à la vente, parce que c'est une vraie vente. Quand tu as un client qui fait sa facturation d'une certaine façon, qui classe ses papiers d'une certaine façon, qui fait ses notes de frais d'une certaine façon, en fait, ben comme tous les clients, il a pas que ça à faire de penser à la bonne méthode pour faire, et il est dedans et il se rend même pas compte du temps qu'il y passe. Donc en fait, si tu veux le faire changer de façon, avec du Adigit, il faut arriver à lui vendre, entre guillemets, à lui faire acheter le fait qu'en fait, il va gagner du temps et il va moins s'embêter. Et donc, cette partie-là, nous, on attache beaucoup d'importance à ça. Cette installation, c'est une vraie vente, mais une installation qui doit aller jusqu'au bout. Je te prends un exemple. Je vais continuer mon exemple de l'abonnement autoroute. Moi, je dis au collaborateur, ça, il dit, ouais, on lui a dit de prendre l'abonnement autoroute. Je lui dis, mais tu lui as dit, il l'a fait? Ah ben non. Je lui dis, pourquoi? Ben, je sais pas, je lui dis, ben moi je vais te dire pourquoi. Parce que quand il s'est mis à le faire, ça lui demandait son cabis, il a fait, oh putain, j'ai pas envie de charger le cabis. Et puis il est passé à autre chose. Si tu veux que le mec il prenne l'abonnement autoroute et que t'es plus à t'embêter à chercher les tickets, il faut que tu ailles l'installer chez lui. Mais comment ça chez lui? C'est quand même pas moi qui vais tenir la main. Bien sûr que si. Donc le jeu pour installer la digitalisation, c'est qu'il faut des welcomers. Nous, ça fait, c'est à la mode, nous, ça fait des années qu'on le fait. Il faut former un ou deux collaborateurs, deux c'est mieux, quand t'en as un qui est malade c'est mieux, qui soient des spécialistes de l'installation chez les clients et qu'ils leur tiennent la main pour que les mecs ils se disent, ah finalement c'est mieux comme ça. Donc il faut qu'ils leur vendent le changement, mais leur vendre dans l'idée, c'est pas, là je parle pas de la contrepartie financière, il faut qu'ils leur montrent concrètement comment faire. Aujourd'hui le collaborateur, le seul truc qui l'intéresse, c'est quand est-ce que le mec va me filer des papiers. Le temps qu'il a passé pour les récupérer les papiers, aujourd'hui le collaborateur s'en fout. Donc la problématique, c'est qu'aujourd'hui il se fout du temps passé par le client à collecter des papiers, ce qui s'intéresse à quand est-ce qu'il va me les transmettre. Si tu veux vraiment que les clients utilisent les outils de Digit qui sont faits pour faire gagner du temps dans le processus administratif, il faut former les collaborateurs à aller installer ça chez les clients en leur montrant le bénéfice de s'en servir. Et donc là, moi, je passe ma vie à coacher. Nous, on fait des diagnostics d'organisation administrative. On envoie des diagnostics aux clients et le collaborateur arrive avec le diagnostic et dit maintenant ça va pas. Voilà comment vous allez faire. D'ailleurs, c'est vachement mieux. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Par contre, c'est un poste. Aujourd'hui, quand on dit on installe le client, c'est du pipeau complet. La plupart, ils envoient vaguement un collaborateur qui appelle et qui dit vous nous passez des papiers comme ça. Savoir comment le client est organisé, ils ne le savent pas. Le scanner, il ne marche pas. Ils ne savent même pas où il est branché. Donc, ça se trouve, il n'est pas branché. Donc, ils ne sont pas allés chez le client. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux.
Tu veux rebondir là-dessus, Philippe?
Moi, je crois que les clients... ils sont a priori, entre guillemets, hermétiques à changer parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Leur intérêt, en tout cas.
Toujours le bénéfice.
Bien sûr, c'est ça. Et donc, c'est sûr qu'on aura plus de difficultés à faire basculer un client qui n'a pas de compte à jour, n'a besoin de rien, ne s'intéresse pas et gère à sa trésorerie, bien sûr. Mais ça, c'est les tout petits. Le moindre client qui a un petit peu de charge, un petit peu de frais généraux, un ou deux salariés, bah, il regarde si son résultat il tient la route, etc. Si on est capable de vendre, de packager, entre guillemets, le passage au numérique, enfin de la digitalisation, quelle qu'elle soit, donc l'OCR ou que sais-je, ou la récupération demain par le biais de la facture électronique, etc., pour anticiper un peu toutes ces échéances. Si on est capable d'expliquer au client qu'avec ça, il aura évidemment des chiffres plus frais, mais que le cabinet le fait effectivement, c'est-à-dire que si on présente la digitalisation en disant « c'est mieux, point », bah, évidemment, il n'y aura pas forcément d'enthousiasme.
Et ça, là-dessus, moi, j'ai un exemple extrêmement concret. Parce que c'est vrai que j'ai vécu toutes ces époques-là depuis 23 ans que j'accompagne des cabinets avec ce fameux point de départ qui a été la dématérialisation avec les scanners. Et là, c'était flagrant. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des cabinets qui ont offert des scanners aux clients en lui expliquant bah, « maintenant, c'est bien, il faudrait que vous me scanniez les pièces hein, plutôt que de m'amener votre boîte à chaussures, scannez-moi les pièces, caisse, ça ira beaucoup plus vite. Mais en réalité, on a demandé aux clients, en réalité, d'arranger quelque part le processus de production du cabinet. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le client a dit, mais attendez, je ne comprends pas. Moi, avant, je payais 1000, je vous apportais ma boîte à chaussures.
Et vous faisiez tout.
Et maintenant, en fait, vous me demandez de scanner. Et comme en retour, finalement, on lui a proposé aucun bénéfice particulier, parce que bon, à la limite, on aurait très bien pu lui dire, bah écoute, tu me scannes mes pièces, et puis moi, je vais te donner une balance AG tous les mois pour dire combien te doivent tes clients, combien tu dois à tes fournisseurs, etc. Non, il y a eu zéro bénéfice. Donc en fait, le client, pour beaucoup, sont revenus vers le cabinet en disant, mais attendez, je comprends pas, moi, je payais 1000 avant, et vous vous débrouillez, maintenant, non, ça va être 800, quoi.
Partage tout à fait ce que tu dis, mais dans ta question, il y a un truc très important, ça peut paraître être du détail, mais il y a un truc très important, c'est que si tu veux installer la digitalisation chez les clients, il faut que le cabinet accepte de former un ou deux collaborateurs au moins sur le potentiel des outils. Je te prends un exemple qui date depuis 5 ans. Ça fait 5 ans de tête que la QuadraBox est en place. La QuadraBox, c'est des scanners, etc. Moi, un de mes trucs, quand je vais dans les cabinets, je leur dis, vous avez intérêt à demander à vos clients de demander à leur fournisseur d'envoyer les factures par mail, c'est beaucoup plus simple, et de transférer directement la facture à la QuadraBox. Parce que du coup, il y a moins de risques d'ossérisation qui déconne, et surtout, c'est plus rapide pour eux. D'accord. Mais je te jure, depuis 5 ans, 80% des collaborateurs qui disent « Monsieur, c'est pas possible. Attendez, vous connaissez pas la QuadraBox ?» Je dis « Attention, je la connais pas, mais tu vas leur téléphoner. » Et je l'ai fait 100 fois, ce coup-là. Je l'ai fait 100 fois. Ils téléphonaient. « Ah bah oui, ça fait 3 ans. Oui, je sais, ça fait 3 ans que vous emmerdez des clients à leur demander de scanner alors qu'ils pourraient faire transférer. Tout ça, c'est parce que vous vous intéressez qu'à vous et qu'à la rapidité et pas autant que passent les clients. » Et là, ils me disent « Mais ouais, vous avez raison. On va leur demander maintenant de faire comme ça. » Et donc, effectivement, moi, quand je parle de Bobby, j'en parle souvent parce que c'est ça. Bobby a tous les outils pour permettre aux clients de gagner un temps phénoménal dans la collecte des pièces qu'il va transmettre au cabinet, c'est ça qu'il faut aller mettre en place. Mais pour ça, il faut que le collaborateur soit au courant de la possibilité technique. Et c'est pour ça que je dis que dans un cabinet, il vaut mieux avoir deux welcomers qui installent tout le monde plutôt que de former tous les collaborateurs à connaître tous les logiciels du marché. Parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir. Ce n'est pas non plus de leur faute que le collaborateur ne connaisse pas l'option de la QuadraBox. C'est embêtant. Par contre, qu'un welcomer qui serait chargé d'installer Bobby ou la QuadraBox, s'il installe Bobby, il faut qu'il connaisse Bobby par cœur. Et s'il connaît Bobby par cœur, les clients seront contents.
Bien, merci beaucoup à vous deux. C'est vrai que c'était un épisode un peu long. C'est vrai qu'on voit l'importance du sujet de l'offre de service comment finalement la décliner au niveau du cabinet, que proposer aux clients au-delà de la mission traditionnelle. Donc c'était effectivement le deuxième épisode sur cet sujet de l'évolution du cabinet vers le cabinet du futur. Dans le prochain épisode, donc, on traitera de la partie justement comment produire cette offre de service. Une fois qu'on a défini ce projet, cette stratégie, qu'on a défini l'offre qu'on allait proposer aux clients, comment on la marketait et comment on la vendait, et bien on va tout simplement voir comment on produit dans le prochain épisode où je vous invite tous à écouter. Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.